La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Michel Bernaud. Réalisation signée Daniel Fino. Ce soir, Corinne Rondeau et Yasmine Youssi se font face à notre affiche Kiefer Rodin. C'est au Musée Rodin à Paris. Ed van der Elsken, La vie folle au jeu de paume, également à Paris. Nous parlerons aussi plus rapidement de l'exposition de David Wall à Saint-Étienne et du trésor de la cathédrale d'Angoulême avec Jean-Michel Autoniel. Vers 21h20, nous suivrons Xavier Martinet dans le petit salon pour parler de photographie. Précisera. Et puis, bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour Nothing Wood, le film de notre camarade Sonia Kronlund qui est sorti aujourd'hui au cinéma. C'est au Musée Rodin que nous nous rendons pour débuter cette émission en cette année du centenaire de la mort de l'artiste. Et alors que l'exposition Giga se poursuit au Grand Palais, nous en avons déjà parlé, ça tombe bien, ça libère de la place au Musée Rodin. Et ça nous donne notamment l'occasion de voir des œuvres peu montrées comme Absolution, dont nous parlerons bien sûr, et aussi d'organiser cette confrontation entre le sculpteur français et l'artiste Anselm Kiefer, la commissaire de cette exposition, Kiefer Rodin et Véronique Matuessi. Il y a plusieurs années déjà que le musée Rodin s'est ouvert aux artistes contemporains et avec Anselm Kiefer, le dialogue, je dois le dire, m'est apparu fructueux, on va en parler ensemble. L'exposition s'est déroulée alors, d'une part dans les salles d'exposition temporaires, on voit une quarantaine d'œuvres inédites d'Anselm Kiefer et d'autre part dans l'hôtel Biron, au sein des collections permanentes, avec des plâtres, notamment de Rodin expérimentateur, comme en témoigne cette absolution que j'évoquais en ouverture. Bon, ça nous a marqué, Corinne Rondeau. Il faut peut-être qu'on commence par là, en fait, non?
Non, la cerise sur le gâteau.
La cerise sur le gâteau.
Ou au milieu.
The cherry.
Je sais pas.
On the cake.
Comme vous voulez.
Bon, alors, puisque c'est comme ça.
On va vous laisser. Hein.
Anglais, c'est Yasmine Youssi qui va faire. Alors, il y a un événement aujourd'hui dans la dispute. Yasmine Youssi a toujours 5 fiches par exposition. Il y en a 6.
Et oui.
Concernant Kiefer Rodin. Introduction, fiche numéro 1.
Fiche numéro 1. Mais écoutez, moi, depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de me méfier de ce genre d'exposition qui propose un face-à-face entre deux très grands artistes. On s'est rendu compte que, bon, effectivement, mettre deux grands noms sur une affiche, ça attirait du monde et ça avait de la gueule. On s'est aussi rendu compte que ça pouvait être très artificiel. La dernière fois qu'on en a parlé ici même, tous les deux, enfin tous les trois, c'était au sujet de l'exposition de Giacometti. Picasso, qui était très belle, hein, y a rien à dire, mais enfin, le propos, lui, était vraiment, on ne peut plus, au ras des pâquerettes. Il n'y a rien du tout cela
peu,
ici.
Bon.
Oh, c'était poussé. Voilà, c'était une confrontation poussée. Et là, il n'y a rien de tout cela. Au musée Rodin dans cette exposition. C'est un vrai dialogue de Kiefer avec Rodin, mais aussi de Rodin avec Kiefer par le biais de la commissaire d'exposition qui ensuite a répondu un peu à Kiefer. Et ça, c'est absolument fantastique parce que quand on commence par Kiefer et qu'on va voir Rodin, tout d'un coup, on voit Rodin aussi différemment. Et ça, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Alors, pourquoi ça marche ici? D'abord parce que c'est tout sauf une... là, c'est pour le coup, c'est tout sauf une rencontre artificielle, parce que Kiefer fréquente Rodin, et ça, on le sait, il le dit, c'est pas comme au Grand Palais, où j'ai même été étonnée qu'il n'y ait pas Michel-Ange avant, parce que je suis sûre que Michel-Ange a inspiré Rodin, enfin bon... qu'il l'a même copié après. Kiefer donc fréquente le musée Rodin depuis la première fois d'ailleurs qu'il est venu à Paris en 1963. Il est allé au musée. Ensuite, il a passé du temps seul avec Rodin à voir tous ses dessins. Mais il s'est rendu compte même que c'était qu'ils avaient des aquarelles. Lui ne connaissait pas les aquarelles érotiques de Rodin et qu'il avait fait aussi quelque chose qui s'en approchait dans les années 70. Qu'il a pu passer 2 jours dans son atelier de Meudon en 2013. Ce qui lui a permis de se familiariser, c'est surtout ça qui l'a intéressé, avec le processus de création de Rodin. Et c'est ce qu'on va voir, ce processus de création-là, c'est ce qu'on voit dans l'exposition, dans le musée, hein, dans la chapelle. C'est vraiment Kiefer qui prend la parole. Là, il découvre les abatis, il découvre ensuite le livre sur les cathédrales. Effectivement, ça lui parle parce que un livre, lui, il en fait des livres depuis des années, et que ses architectes effectivement entre en résonance avec les siennes, toutes celles qu'il a réalisées dans le Gard. Voilà, donc effectivement, ça ne pouvait, cette vraie rencontre entre les deux continue depuis des années, où Kiefer n'a cessé de réfléchir à cette œuvre-là, ne pouvait donner que quelque chose d'intéressant et absolument pas artificiel, comme on a pu le voir.
Alors, après cette belle introduction qui pose les choses, enfin... Ça aurait pu être raté, sauf qu'il y a une commissaire d'exposition, Matwissi, qui a fait que c'est vraiment à l'issue du parcours qu'on saisit toute l'intelligence de cette exposition.
Oui, c'est à la fois formidable parce que c'est aussi la tenacité de Véronique Matwissi qui est en charge des manuscrits, des archives et de la bibliothèque, et dont le livre Les cathédrales de France de Rodin compte beaucoup. Et finalement, cette exposition a pu avoir lieu autour de ce livre que personne ne lit de Rodin, puisqu'on croit qu'il a écrit, mais en fait c'est des entretiens tout le temps. Et c'est le seul livre qu'il a écrit. Et c'est un livre qui est conçu un peu comme il fabrique ses assemblages, par des petits bouts, c'est entre sensations et descriptions, c'est absolument poétique, et en même temps, c'est de histoire, son histoire à travers le gothique et des cathédrales. C'est aussi un livre testamentaire. C'est une manière de dire, ben voilà, si je regarde le passé en même temps, ces édifices, la mort de ces édifices est aussi la mienne. Enfin, c'est au début du livre. Et donc, c'est vraiment déjà un événement en soi que d'exposer quelque chose qui est ce livre-là, puis ensuite d'inviter un type qui est mégalomane et qui s'appelle Anselm Kiefer, dont on peut se demander ce qu'il pourrait faire à côté d'un ogre mal absolu qui est Rodin, alors que lui-même est un mastodonte. Enfin, voilà.
Oui, non, mais c'est vrai.
Et pour le coup, alors je crois que l'information est juste, mais à vérifier, c'est Anselm Kiefer lui-même qui n'a pas voulu la proximité de Rodin avec lui. Ce qui fait que, d'une certaine manière, ils ont fait le choix remarquable, et tant mieux qu'il y ait le Grand Palais, même si on ne l'aime pas ou si on l'aime, puisqu'en fait, ça a pu redonner à l'entrée de l'hôtel de Biron une place à la place du baiser, et que, effectivement, la mise en miroir dans la distance fonctionne comme s'ils étaient dans la proximité. Donc ça, c'est déjà une très grande réussite, mais c'est un, parce qu'il y a une très bonne commissaire qui connaît le texte, mais qui aussi a travaillé avec Anselm Kiefer, et comme l'a dit Yasmine, c'est Anselm Kiefer qui a beaucoup regardé Rodin, ça se voit d'une manière assez remarquable. Et puis comme dans les cathédrales de France aussi, Rodin dit le but suprême de l'art, c'est d'exprimer l'essentiel, je crois qu'il a donné une petite indication à Kiefer en disant, voilà l'essentiel, donc il faut avoir des effets simples. Et pour le coup, moi qui n'aime pas, je l'ai trouvé d'une élégance assez remarquable. On s'en prend un peu dans la tête en arrivant, parce qu'il y a 3 tableaux monumentaux avec des splashes de plomb, des enroulés de plomb, mais en même temps, on a des effets bleutés du plomb. Donc, ça vibre. Mais en même temps, d'habitude, je le trouve très massif, trop massif. Et là, il y a quelque chose qui se dégage, malgré ces tableaux qui sont d'une matière mixte. Hein, je veux dire, bon, il y a des fragments de tout. Je dis du plomb parce que c'est l'effet le plus fort des tableaux. Et là, d'un coup, c'est des choses qui s'élèvent, alors que, on peut le dire, et Véronique Mathieu-Sy aussi dans son texte dit bah, l'un c'est la figure humaine qui est l'architecture, la structure de l'œuvre de Rodin, et l'autre c'est le passé. Ouais, c'est le corps et la mémoire. Et effectivement, on sait que Anselm Kiefer, sa mémoire c'est la guerre,
les bombardements, la destruction,
c'est la Shoah aussi. Et finalement, il a racheté aussi les toitures en plomb de Cologne. Mmh. Et en fait, il a la mémoire aussi lourde. Moi, c'est pour ça que j'aime pas son travail, parce qu'il a quelque chose de ce poids de la mémoire. Et là, je trouve que la confrontation qui lui a permis de perdre un peu cette histoire le ramène à de l'art, et en même temps dans la confrontation il fallait qu'il ait, je dirais, la force d'un Rodin qui est bien avant tous les problèmes historiques que se coltine Anselm Kiefer. Bon, donc j'ai trouvé ça formidable. Et puis alors les choix qui sont des vitrines avec Anselm Kiefer a beaucoup regardé les abatis, vous l'avez dit, mais il va se servir de moules par exemple qui sont des reproductions dans lesquelles il va planter des émanations, des formes comme ça, des palmes de avec du plâtre. Donc le plâtre est évidemment un matériau de, on voit bien qu'en fait il plante dans Rodin sa forme. Et là d'un coup il y a une manière de dire Anselm Kiefer, c'est comment je pousse. Ah ben je pousse dans la matière de l'autre, et c'est vrai qu'il pousse dans la matière de l'histoire. Et là, il pose dans la matière de Rodin. Mais, pour le coup, je l'ai trouvé quand même... bravo, sauf les livres où il a fait des dessins érotiques. Alors moi qui suis une grande fan des dessins érotiques parce qu'ils sont totalement décontextualisés, les dessins érotiques de Rodin, alors que lui il les contextualise. Là c'est sur des fonds marbrés, des faux marbres, les formes. Alors on va y revenir, puisque dans l'hôtel de Biron, à l'étage, dans le petit couloir là où il y a les dessins, mon Dieu, merveilleux, enfin bon, c'est formidable. Ah ouais. Et là on voit quelque chose qui est formidable. C'est un dessin où il y a Balzac, et au-dessous il y a une cathédrale. Et ce qui est intéressant, c'est que les jambes du Balzac sont ouvertes, comme s'ils allaient se poser sur la toiture de la cathédrale. Si on va dans le musée, on va voir le Rodin avec une masse au milieu de ses jambes. Et si on va en plus à Meudon, on va voir le Balzac avec les grandes jambes écartées. C'est vraiment comme s'il était il avait pris l'empreinte d'une toiture, en tout cas de cathédrale. Et alors, Anselm Kiefer l'a bien regardé, puisqu'en fait, il va faire non pas une femme, mais un homme, mais une femme sur ces cathédrales, sauf qu'il va les asseoir. J'ai trouvé ça beaucoup moins réussi, on va dire, moins passionné par l'architecture, qui est la structure de l'homme et de la cathédrale, puisqu'en fait, voilà, c'est l'homme sur la cathédrale, et c'est l'architecture qui pousse l'homme et qui élève l'homme chez Rodin.
Moins réussi, mais moi qui suis aussi très peu sensible à l'œuvre, aux œuvres d'Anselm Kiefer, parfois il y a des choses quand même qui me touchent. Là, j'ai était comme vous, saisi Corinne Rodin, mais plus que vous, puisque même ces livres, qui sont donc exposés en vitrine, il faut savoir que ce sont des livres extrêmement épais, qui sont ouverts à certaines pages, mais les livres sont entièrement remplis d'œuvres d'Anselm Kiefer. C'est assez beau d'ailleurs d'avoir toute cette masse de choses non montrées, non vues, mais le travail est là. Alors certes, on reparlera effectivement des dessins et des aquarelles de Rodin, ça, on n'est pas dans la même catégorie, mais il y a effectivement un cousinage, enfin quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Et quand on va à l'hôtel de Biron et qu'on voit les dessins de Rodin, c'est extrêmement troublant. Et c'est vrai que ce parcours, il est vraiment il fait appel à tous nos sens, à toutes nos émotions, et Kiefer n'a jamais été aussi léger qu'au musée Rodin.
Absolument. Alors moi, contrairement à vous deux, en général, j'aime beaucoup, beaucoup Kiefer. Et heureusement qu'il y a cette exposition au musée Rodin, parce que la dernière qu'on avait vue, en tout cas celle du Centre Pompidou, c'était un Kiefer grandiloquent qui surjouait son Kiefer.
C'est souvent le cas, Yasmine, avouez-le, il est souvent grandiloquent.
Non. Et là, justement, il retrouve... parce que tout d'un coup, je crois qu'il a un maître en face de lui, et que là, il va pas jouer à « je suis le maître du maître ». Quoi. C'est vraiment... Alors, par rapport au dessin de la cathédrale, au dessin érotique, enfin, aux aquarelles qu'il fait, lui, il dit qu'en fait, le texte de Rodin est très ambigu. Il l'a quand même beaucoup marqué par son ambiguïté. C'est très conservateur en même temps, sa manière de parler des cathédrales comme des corps de femmes, et que c'est pour ça que lui... colle ces corps de femmes sur ces cathédrales. Mais c'est vrai qu'entre les deux, la légèreté des dessins, des aquarelles de Rodin, des dessins de Rodin apparaissent. Mais moi, je voudrais ce qui est passionnant aussi. Alors, vous dites c'est un artiste de l'histoire Kiefer, et ce qui Ce qui me marque, moi, dans cette exposition, c'est que ce qu'il a retenu de Rodin, c'est la manière dont Rodin travaille. Ça, c'est quelque chose d'omniprésent, qu'on voit beaucoup après sa manière, lui, de réutiliser, comme vous dites, bon, les moules, mais aussi les abatis, qui tout d'un coup deviennent mémoire, tout d'un coup deviennent restes humains. Dans ces vitrines, il y a des très, très belles vitrines de paysages complètement désertés, asséchés. Avec de la terre, avec une branche qui tient pour un arbre, et puis un truc d'ADN, enfin une torsade d'ADN, et tous ces abatis qu'on voit, qui l'ont, tout d'un coup, ils se les réapproprient. Mais après, quand on va au sein du musée, qu'on va dans cette salle du baiser, comme vous avez dit, Corinne, la bonne nouvelle, c'est que le baiser a été emporté aux grandes dames des touristes américains, mais on a cette absolution.
Et c'est l'heure de la cerise sur le gâteau.
Est-ce que c'est pas trop tôt?
Non,
non.
Il n'y a pas d'heure pour la cerise.
Voilà. Et c'est une œuvre que Rodin a composée en amalgamant en fait plusieurs autres œuvres, puisqu'il travaillait comme ça. Il avait beaucoup plusieurs formes comme
en,
ça
en cours,
en cours, et qui développait, qui réutilisait, qui l'assemblait. Et donc là, c'est le torse d'un Ugolin assis sur lequel il y a une tête de femme. Donc un corps d'homme, une tête de femme, et ce personnage comme ça, je crois que c'est la tête de la martyre, c'est ça, ou la martyre, c'est celle qui est sur... Enfin, il y a un personnage comme ça, presque fantomatique, qui est retenu par un baiser, par aux lèvres du Gaulin femme, et le tout recouvert d'un drap de plâtre, exactement le même drap qu'il avait utilisé pour la même technique, hein, qu'il avait utilisé pour sa sculpture de Balzac. Et c'est une œuvre qui est étonnante, qui est vraiment, qui est d'une force, qui est d'une modernité, d'une contemporanéité. Et là, tout d'un coup, dans cette salle, outre l'absolution, vous avez plusieurs abatis disposés. Donc les abatis, c'est des morceaux de pieds, des morceaux de mains, de fragments de corps, disposés les uns aux côtés des autres. Et on voit tous ces assemblages qu'on voit ensuite différemment quand on va voir aussi l'exposition Rodin au Grand Palais. Et on se rend compte, après être passé par Kiefer, de tout ce qu'il a apporté. Et c'est pas juste, on juxtapose n'importe quoi, là c'est vraiment Rodin tel qu'il était. Il y a aussi un torse de femme, un corps de femme nue avec une main, un squelette de main, enfin c'est un ensemble comme ça, qui est juste éblouissant.
Oui, mais c'est aussi la grammaire, c'est le vocabulaire.
Oui, c'est le vocabulaire
de Rodin. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir cet effet sériel comme dans l'exposition.
C'est cet effet sériel qui est tellement ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui, et qui, dans l'absolution, c'est presque un cadavre exquis qui l'aurait fait seul. Corinne Rondeau, on avait tous été saisis quand même devant cette absolution.
Non, je crois que c'est tellement fort qu'on n'arriverait même pas à le dater.
Absolument.
Et se dire aussi Rodin. Alors évidemment, on va reconnaître du Rodin sans doute par l'assemblage, parce que c'est lié à un assemblage. Mais ce qui est incroyable, c'est la manière dont ils l'ont présenté. On n'a pas la figure, on a le dos. On a le dos, donc c'est une forme informe. Et puis de l'autre côté, bon, voilà, ce qui est très beau, je trouve...
Quelques traits de la figure.
Ouais.
Et puis le crâne qui est complètement vide.
Et ce qui est très beau, je trouve, c'est que le corps est incomplet. Le corps qui sort de ce drapé... on ne sait pas où il finit. Et en fait, il y a du vide, il y a du secret. Et vous aurez remarqué que dans cette salle, il y a deux mains qui se tiennent comme ça. L'une s'appelle la cathédrale, mais dans l'exposition, dans le musée, il y a un autre. Deux mains comme qui se tiennent, où il y a quelque chose du marbre qui est tenu, ou du plâtre, je ne sais plus exactement, pardon pour les spécialistes, hein, qui s'appelle le secret. Et il y a chez Rodin, dans ses assemblages aussi, il joue avec du vide, Rodin. Il joue avec de l'espacement, c'est-à-dire qu'il joue avec du souffle. Et quand il dit que la nature, c'est le ciel et la terre, et que la cathédrale, comme l'homme, c'est ce qui tient du sol, et qui va vers le... C'est quelque chose de la nature qui recombine, mais il recombine toujours avec du souffle. C'est pour ça qu'il est capable, avec une même forme, un même abattis, on le voit dans cette salle, vous avez une sculpture qui prend tout les positions, allongées à genoux, sur le dos, en l'air, etc. Vous dites, voilà, le minimalisme a commencé avec Rodin. C'est-à-dire, voilà, il y a du Robert Maurice déjà ici. C'est-à-dire, comment une forme qui est la même va devenir autre chose. Et donc, ces deux mains qui sont une cathédrale, mais qui sont aussi le secret. Il y a, y a quelque chose de, vous voyez, dans cette culture d'absolution aussi, il y a quelque chose qui elle a quelque chose d'un secret, cette sculpture, et elle est à la fois le jour et la nuit, donc c'est aussi un rapport à Michel-Ange qu'avait Rodin, cher Yasmine.
N'oubliez pas que c'est Rodin qui a inspiré Michel-Ange.
Non, mais il le dit sur la question du seuil des cathédrales quand on rentre dans une pénombre, le sentiment grandiose dans la nuit savamment organisée et approfondie. Et cette sculpture, elle est comme ça aussi. Il y a quelque chose de savamment organisé et approfondi. Sauf qu'elle vous échappe tout le temps. Mais c'est vrai que cette masse, ce drapé, est inouïe, mais inouïe. Et évidemment, quand je pense au vide et à l'espacement, et à ce souffle, je pense à la robe de chambre de Balzac. Mmh. Je veux dire, ce truc qui tient avec rien au milieu. Et ça tient aussi surélevé, sur un socle. Le drapé tombe, ce plâtre qu'il a jeté sur cette... Parce qu'il travaillait avec un drapé, des rideaux ou de la toile de jute, à ce qu'il avait sous la main. Donc avec rien, il faisait toujours tout. C'est ça qui est incroyable. Et c'est vrai que là, la rencontre des deux, c'est comment eux, ils sont dans un rapport à la matière qui est inouï. Mais bon, pour moi, Rodin restera le grand, parce que c'est toujours cette manière de voir cette puissance et ce souffle qui fait passer à l'intérieur de ça. Et ce jour, cette sculpture, pour moi, c'est un jour et nuit. Vraiment. Et bon, parce qu'en plus, Michel-Ange, il y a le jour et la nuit, les sculptures. Ouais. Et à Meudon, il y a la tour du travail où il y a une entrée la nuit et une entrée le jour.
Mais dans les assemblages, justement, il y a cette sculpture hein, qui est juste éblouissante et qui vous happe tout de suite. Il y a quelque chose de très fantomatique aussi dans ce personnage comme ça, qui, comme vous dites, on ne sait pas où est-ce qu'il finit.
Fantastique,
oui. Il y a une série d'autres assemblages. Et pour moi, c'est vraiment, vous y voyez le jour et la nuit. Et il y a aussi quelque chose des rapports entre hommes et femmes dans tous ces petits assemblages qui est très très fort. Vraiment, il y en a un qui toise, il y en a un qui est abandonné. Enfin, il y a vraiment, mais vraiment pour moi, c'est le rapport amoureux. C'est son discours du rapport amoureux, mais qui est dit. C'est un choix de la commissaire, hein. C'est vraiment, et c'est ça aussi qui est fantastique. Je sais plus qui du musée me disait finalement, tous les 20 ans, on réinvente Rodin. Et pour moi, là, c'est une nouvelle étape, dans la manière de le présenter.
Peut-être qu'on est capable de le voir autrement tous les 20 ans, mais peut-être après cette salle de l'absolution, dire quelques mots sur ce petit couloir.
Oui.
Corinne Rondeau, avant de conclure sur Rodin.
Nous avons des dessins absolument merveilleux, puisque indépendamment de celui avec Balzac et la cathédrale, il y a des corniches. Il fait des corniches avec des répétitions de corniches à même verticalité, et puis il y a des décrochés comme ça. Et dans le dessin à côté, c'est la silhouette d'une femme, le contour d'une femme de dos. Et en fait, il va tirer des traits comme ça, enfin le dessin de l'homme continue. Et c'est merveilleux parce que c'est l'homme cathédrale et la femme corniche. Ouais. Et en fait, elle donne, je dirais, des proportions pendant que lui, Balzac ou l'homme en tout cas, donne la force d'élévation de l'architecture. Et puis après, effectivement, il y a d'autres dessins, il y a des aquarelles à la fin qui sont très belles et on voit qu'il met beaucoup moins d'eau qu'Anselm Kiefer et il a une justesse, je trouve, sur les couleurs et même s'il y a un coup de graphite, il est là. Bon, enfin voilà. En tout cas, et puis ne pas se faire des économies sur le catalogue qui est une pure merveille.
Bon, ben voilà qui est dit.
Mais vraiment, il faut commencer par Kiefer. Il faut commencer par la salle.
C'est l'entrée normale. On va à droite et on commence par là.
J'ai vu des gens qui partaient directement.
Bon, ben, vous faites bien donner le conseil. Commencez par l'espace temporaire, donc au musée Rodin rue de Varennes à Paris pour cette exposition Kiefer-Rodin. Ce catalogue, il est coédité par Gallimard, le musée Rodin et la Barnes Foundation sous la direction de Véronique Matouissi. Et donc l'exposition, et c'est heureux, se poursuit jusqu'au 22 octobre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Ed van der Elsken, David Wall et Jean-Michel Autoniel. Avant cela, c'est Xavier Martinet que nous suivons dans le petit salon. « Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, on va parler de photographie tout à l'heure au Jeu de Paume. On amorce la discussion autour de la photo ce soir.
Oui, la photo d'art, en fait, puisque vous vous rappelez qu'on avait parlé en avril, à l'occasion du mois de la photo, du succès croissant des expositions photo. Cette fois, on s'intéresse à cette photo d'art dans les foires, puisqu'une nous avait échappé. C'est London Photo, qui a ouvert en mai et qui, en à peine 3 éditions, a réussi à s'inscrire sur l'échiquier des foires, une gageure dans une ville qui n'a jamais manifesté d'empressement pour ce médium. C'est ce qu'écrivait Roxana Azimi dans Le Monde. Toute nouvelle, donc, cette foire, dans un paysage déjà bien chargé. Elle s'est même fermement établie sur le calendrier des connaisseurs de la photographie, disait le Financial Times, qui y voit de nouvelles limites franchies, écrit-il. Alors, la qualité est inégale, dit Roxana Azimi, mais parmi les galeries qui ont haussé le niveau, elle note la présence de la galerie Sprutz Magers, qui expose les portraits étranges de l'américain Philippe Lorca di Corsia face aux photographies de l'allemand Andreas Gursky, connu pour ses immenses photographies d'ensemble et de répétition, au point aussi d'en devenir abstraite. Alors les deux ont été formés à une certaine approche au départ documentaire dans les années 80, l'un à Yale, l'autre à l'école des arts graphiques de Düsseldorf. Les deux s'en servent toujours, on pourrait dire, comme point d'appui pour en tirer des images comme libérées de la représentation. Et ainsi, avec Art Basel en ce moment et Paris Photo, cette foire rend compte du chemin parcouru par la photographie pour conquérir ou reconquérir une place dans le circuit de l'art. Alors, je précise qu'on est loin de la grande photographie documentaire qui remplit les expositions, Walker Evans actuellement au Centre Pompidou, perçu essentiellement comme le photographe de l'autre visage de l'Amérique, tous les journaux l'écrivent, ou Annie Leibovitz encore à la Fondation Luma à Arles, dont les photographies de jeunesse et de stars de musique intéressent évidemment. Quoi qu'on en pense de ces photographes, on voit que ce sont des images perçues pour leur référence plus que pour elles-mêmes. Alors que là, on est, semble-t-il, dans ce moment particulier où la photographie, donc affranchie de la figuration, a depuis 15 ans conquis sa place sur le marché de l'art contemporain, notamment grâce à cette fameuse école de Düsseldorf, redécouverte, écrivait Lacroix, au mois de la photo 2008. Andreas Gursky lui-même est le photographe le plus coté au monde, tous les journaux l'écrivent, et certains Allemands, par ailleurs de cette école, sont une bonne illustration de ce succès qui commence dès les années 2000. Pour Gursky, c'est une première rétrospective au MoMA en 2000, puis 2 records de vente de photographies les plus chères au monde en 2007 et en 2011 à New York pour une photographie de l'eau du Rhin. Alors, il faut quand même prendre la mesure du choc esthétique qu'a été le travail de Gursky pour la photographie dans l'art. The Best of Times, écrivait récemment au début de l'année le collectionneur William Hunt, un Américain, dans The Eye of Photography. Il parle de cet instant décisif où il a vu un panorama de rave party. Le travail n'était pas parfait, dit-il, avec une pixelisation excessive dans les coins et des lumières qui rebondissaient maladroitement sur le plexiglas, mais le résultat était proprement stupéfiant. Il parle d'un coup de poing qu'il compare à l'ouverture du Sacre du Printemps. Pour un autre tableau, il parle de Pollock. Alors, plus encore que Walker Evans ou Leibovitz, même Andreas Gursky a eu droit à une rétrospective assez permanente, on pourrait dire. Il était encore exposé à Baden-Baden en décembre dernier. Et au-delà d'Andreas Gursky, indique le magazine Apollo, magazine américain encore, ces 5 dernières années marquent aussi l'apogée de cette école de photographie de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, qu'on a appelée la photographie objective et qui a vu passer toute une génération de photographes allemands des années 70 à 90 et dont les productions, y compris celles des professeurs, les anciens Bernd et Hilla Becher, atteignent aujourd'hui des sommets dans les ventes, en témoigne une série de ventes entre 2015 et 2016, relate le magazine Apollo, de quelques dizaines à quand même quelques centaines de milliers d'euros. C'est donc l'ascension tout en record de l'école de Düsseldorf. Voilà, j'ajoute pour terminer que l'école de Düsseldorf n'est pas la seule appréciée dans la photographie d'art. On peut penser aux images presque pointillistes d'Adrian Sauer à Photo London également, ou celles de Wolfgang Tillmans qui sont exposées au Grand Palais à l'exposition Jardin, allemand lui aussi, d'ailleurs en perpétuelle rétrospective également. Il est à la Fondation Bayeuler à Bâle. Il a aussi une carte blanche en ce moment à la Tate Moderne de Londres. Alors, est-ce qu'on vit en ce moment l'apogée simplement de cette école de Düsseldorf et de cette photographie objective, ou en tout cas, qu'est-ce que cette photographie d'art a apporté à l'art contemporain ces 15 dernières années?
Ouf, quelle question. Alors, concernant Wolfgang Tillmans, on en parle dans une semaine ou deux, pour cette exposition de Bâle. Andreas Gursky, je me demandais ce qu'il devenait, ce garçon.
Oui.
On avait plus de nouvelles, mais en fait, il est partout, oui, oui. Encore, Yasmini aussi.
Oui, enfin, il est parti. Il est parti.
Vous aimeriez bien qu'il soit parti, non? Il est parti ou il est partout?
Ma grand-mère habite dans les immeubles photographiés chez Andreas Gursky, tiens.
Ah oui, d'accord.
Écoutez, Andreas Gursky...
On n'a parlé que de lui à une époque.
Mais il faut revenir à cette époque-là, parce que pas grand-chose n'a évolué depuis, en fait. Paris Photo, l'engouement pour la photographie contemporaine, ancienne, pour la photographie en général, qui n'était pas considérée comme un art pendant des années, pendant des décennies, date de la fin des années 90 et du début des années 2000. À partir de là, effectivement, le grand mouvement, déjà à ce moment-là, et ça n'a pas changé depuis, c'est... cette école de Düsseldorf avec Andreas Gursky, et puis tous ceux, les Thomas Struth, tous ceux qui sont passés par là, Tillmans, qui tellement, je suis pas sûre qu'il soit passé par Düsseldorf, par Düsseldorf. Voilà. Depuis, ça n'a pas beaucoup changé, mais pourquoi? Parce que la photographie ne s'est pas beaucoup renouvelée. Dans la forme, comme dans le fond, ce qu'on a vu entre la fin des années 90 et, on va dire, 2005-2010, depuis, ne s'est pas passé grand-chose. Pour ce qui est des prix, elle a été complètement, ingurgitée par l'institution qui a imposé la photographie des départements de photographie pendant des années. Il y avait que le MoMA qui avait un département.
Ouais, c'est un changement très notable.
C'est un changement très notable. Pour ce qui est des prix, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a de très gros prix pour Andreas Gursky, mais la photo elle-même ne décolle pas plus que ça soit la photo contemporaine ou la photo ancienne. Là, vous allez avoir une vente à Drouot le jeudi 16 d'héliogravure de Baldus, qui est un immense photographe, un des plus grands photographes du début de la photographie. Les héliogravures, ce ne sont pas des tirages multiples, puisque c'est des tirages sur des plaques. Donc c'est des images uniques. Tout ce qu'on recherche dans l'art contemporain c'est vendu entre 600 et 1000 euros. Pour un artiste qui est considéré, alors peut-être il fallait pas le dire parce que ça risque de faire monter les prix.
Et le grès alors?
L'autre grand.
Vous pouvez m'en acheter un ou pas? Vous pouvez m'en offrir un pour la fin de saison.
L'autre grand.
S'il vous plaît, Yasmine.
C'est dans très peu de temps.
Non, le grès n'est pas à ce prix-là, bien sûr, parce que l'autre, en photographie ancienne, l'autre record avait été battu par le grès.
Mais enfin. Moi, il me fait pleurer, moi, tout le temps, donc le grès.
Ah, mais la vague, elle est juste. Elle est juste, c'est la première. On en parlera avec Otoniel. Mais si vous voulez, moi, ce qui me marque beaucoup avec la photographie et c'est un monde que je connais un petit peu. Enfin, c'est que ces dernières années, depuis que la photographie s'est institutionnalisée, qu'elle a été acceptée comme un art à part entière, qu'il y a eu des records de ventes, elle produit plus grand chose. Il n'y a plus l'originalité, il n'y a plus les découvertes qu'on avait. Ni du point de vue de la forme,
ni du point
de vue du fond.
Mais ça, Yasmine, d'où vous le tenez qu'il ne se passe plus rien en photographie?
Mais je le tiens de ce que je vois.
D'accord. Ok, au moins voilà. C'est dit.
Vous me connaissez, Corinne, vous savez que je suis un peu excessive.
Avec moi, c'est un peu.
Mais c'est vrai que il y a encore de très beaux travaux.
On ne pourrait pas se poser la question de savoir comment la photographie est présentée en France, plutôt?
Ça, c'est une autre question. Juste par rapport à l'école de Düsseldorf, chose, c'est que cette photographie-là du banal tirée en spectaculaire, en gigantesque, ce qu'a fait cette école-là, partant des Béchères, où ils répertoriaient en noir et blanc tous les châteaux d'eau, tout ça. Ensuite, eux, ils ont fait le paysage urbain, le paysage banal. Oui, mais on n'est pas beaucoup sortis de là. Combien on en a eu de ça? Mais même en photographie documentaire, il y a des choses très intéressantes. Mais si vous voulez, ça ne se renouvelle pas tant que ça. Ces dernières années, je trouve que c'est un peu...
Mais ça ne veut rien dire ça se renouvelle pas. Moi, je crois que... je crois qu'il faut... Si vous avez un regard institutionnel, forcément, peut-être éventuellement être avec vous. Mais je ne crois pas. Je pense qu'il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce que montrent les institutions, comment elles le montrent. faut arrêter quand même.
Il y a mais des, y a y a pas des, que les institutions.
Sur le vernaculaire, Monsieur Chéroux, avec Walker Evans, il faut arrêter, quoi.
Oui, mais le vernaculaire, bon, pourquoi
mais justement,
le vernaculaire,
à un moment...
pourquoi? Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire.
Mais
alors
non, mais ce n'est même pas
vernaculaire.
Vernaculaire. À un moment donné, il faut arrêter. Si vous voulez faire une exposition tranquillement, parce que c'est joli, on fait des réservoirs d'images, parce que bon, c'est baudelairien, vous voyez, ça ressemble à rien, ça veut rien dire. Et encore, je lui fais la faveur d'un Baudelaire. Mais à un moment donné,
je vous contredis pas, moi, là.
Non, mais je sais bien,
mais le vernaculaire, il vient parce que le vernaculaire.
À un moment donné,
il y a des photographes aujourd'hui qui travaillent.
Non, mais il y a des photographes qui font des propositions, il y a des photographes, mais si vous voulez un choc esthétique comme on en a eu dans ces années-là, alors c'est vrai qu'on s'est tout découvert.
Je suis pas d'accord avec vous sur le choc esthétique, enfin, au choc, oui, esthétique.
Et puis par ailleurs, il faut pas négliger que les Bécher, c'est un couple, et l'école de Düsseldorf, c'est un couple. Et il a donné des petits, beaucoup.
Oui, non,
et aujourd'hui, la photographie
des Bécher,
la photographie de Düsseldorf, si encore on peut là encore l'appeler comme ça, parce que les années, ceux qui sont nés dans les années 60, je dirais, ils sont sortis de ça. Je veux dire, quand on pense à Elsner, je sais plus, celui qui fait des photographies de paysages, sépia, Elger Elsner, non, je me confonds toujours les noms, enfin bon, bref, qui est de l'école du Düsseldorf. On voit bien qu'il y a une sorte de retour au romantisme qui n'est pas
Chigurski qui lui refait la
non,
même chose.
Non, on s'en fout de Gursky, là, franchement, on s'en fout, quoi. Qu'il l'achète et puis basta. Alors donc, on n'a pas l'avenir, hein. Voilà, Xavier, on est
foutu.
Voilà, et puis, non, mais je crois qu'il faut. Il y a des jeunes artistes, il y a des jeunes qui font de la photo, il faut juste sortir un peu. Vous voyez, regardez, j'ai du courrier, là.
Excusez-moi,
qu'il faut aller au point du jour.
C'est le point du jour à Cherbourg.
Excusez-moi, vous
partez jusqu'à Cherbourg, nous irons ensemble.
Et en photo, j'en connais un tout petit rayon.
Xavier, un tout petit dernier mot.
Si je peux terminer en une minute sur l'évolution esthétique récente. Alors, il me semble, en tout cas, et ça va vous sembler assez normal, que beaucoup de ces images qu'on appelle plus beaucoup photographies, d'ailleurs, même parmi ceux qui les font, ils les appellent images, se rapprochent de plus en plus de la peinture. C'est le cas avec celui qui est assez jeune, cet Allemand, j'en ai parlé, Adrian Sauer. Donc lui, il est né en 76. Et c'est vrai que ses photographies ressemblent littéralement à des tableaux pointillistes, hein, on peut le dire.
Sur la peinture, de toute façon.
Si on parle de la peinture, bon, c'est assez évident, peut-être avec le travail sur les lignes, les grandes perspectives de cette école de Düsseldorf, mais plus encore chez les jeunes, on peut voir aussi qu'il y a d'autres travaux qui s'en rapprochent aussi, qui sont assez différents, notamment dans cette, on pourrait dire, photographie plus abstraite, Yoshinori Mitsutani. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il avait été montré à la Maison du Japon, qui lui, est-ce que c'est un travail extrêmement singulier, extrêmement novateur ou pas ? Donc japonais, photographie, notamment toutes des séries de vignettes avec des gros plans très très flous, en très gros plans, et des fonds très très nets. Donc ça fait des effets d'aplats de couleurs, d'explosion de couleurs dans la photographie qui ne sont pas inintéressants non plus, hein, finalement.
Il y a beaucoup de choses intéressantes, Yasmine aussi.
Mais... Ah non, mais je ne dis pas le contraire.
Allez, zou.
Allez, zou. On ferme la parenthèse du petit salon, mais on va reparler de photos dans quelques minutes. Allez, un petit point rapide sur les recommandations que vous avez l'une et l'autre à nous faire ce soir. Eh bien, c'est Corinne Rondeau qui nous emmène à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne, pour voir l'exposition de David Wall. C'est un nom flamand. Oui, c'est ça. Alors, moi, je l'avais vu à Montpellier il y a très longtemps. Et donc, je voulais voir un peu où ça en était. D'autant qu'on m'a dit qu'il faisait des sculptures et pas que de la peinture. Donc, je suis allée voir ça. Alors, il faut savoir que ça, c'est comme des formes dont vous ne savez pas ce que c'est. Bien que c'est souple, c'est comme si vous aviez un organisme sans squelette, d'accord ? Ça ressemble un peu à du chamallow, pour vous donner des images, quelque chose qui est onctueux, qui est doux. Mais en même temps, si vous trouvez ça joli, que vous l'amenez chez vous, que vous le mettez dans la chambre de vos enfants, il serait possible qu'il fasse des cauchemars.
Ah ben ça suffit, les cauchemars.
Et donc, ce travail est tout à fait remarquable, parce que c'est d'abord une facture très lisse du tableau. On ne sait pas, il y a une recherche de la disparition du sujet, donc on cherche à savoir ce que c'est. Même les titres échappent, puisque tous les titres passent à une sorte de logiciel qui sont, ce sont des mots qui peuvent parfaitement...
C'est pour ça que j'avais du mal à dire le titre
mais,
de l'exposition.
Voilà, et bien ça vient de ce logiciel
Expone
de...
Poupinski.
Voilà. De statistiques linguistiques à partir des chaînes de marqueurs.
Cherchez pour voir s'il y avait une faute de frappe, mais non.
Voilà. Et donc, en fait, c'est un artiste qui travaille à vouloir éliminer le sujet. Au début, il peignait des champignons et des gâteaux.
Puis il en a trop mangé.
Non, en fait, il s'est fait acheter les tableaux par des pâtissiers. Il a dit, là, ça va pas. Donc, il a arrêté de peindre. Puis, il a commencé avec la pâte à modeler à fabriquer ce qu'il allait peindre. Et puis une fois qu'il avait peint, il détruisait les sculptures. Donc les sculptures, il est seul à les avoir vues. Ce que vous voyez, c'est la peinture de ces sculptures, qui sont des formes oblongues, très lisses. Il peint à l'huile de lin polymérisée, ce qui fait que c'est comme un miel, et il fait du blérotage. Donc tout est fondu, tout est dans la fusion totale, il y a des flous. Vous ne savez pas ce que c'est. En même temps, vous trouvez ça super joli, très maniéré. Puis d'un coup, vous dites, il n'y aurait pas une petite dent là? Et est-ce que c'est pas un motif de Ingres, de madame, à chaque fois j'oublie le nom de, mais, bon, bref, un motif d'Europe de Ingres. Et puis en fait, vous n'arrivez jamais à savoir ce que c'est. Sauf que ces tableaux sont comme des vanités. Alors la vanité, c'est quoi? C'est la question de l'illusion. Donc en fait, la peinture est elle-même une illusion, et il travaille à l'intérieur de cette illusion pour aller à l'essence même de l'illusion. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la peinture? On veut toujours savoir ce qu'il y a à voir et le nommer. Et là, tout vous échappe. Donc depuis que j'ai vu sa peinture, d'abord à Montpellier, à Galerie Vasistas, là, il est désormais chez Cesson et Bonnetière. Bah, écoutez, je suis baba. Pas au Rhum, mais je dois dire qu'il faut aller voir absolument ce travail, parce qu'en plus, il fait des petites sculptures toutes petites. Vous croyez que c'est lourd, que c'est du béton et tout, c'est du papier mâché. Mais c'est absolument magistral en termes de technique, il n'en parle jamais. Et c'est saisissant en termes de « ça me plaît, mais quelque chose m'inquiète ». Et donc c'est quelqu'un qui veut nous inquiéter, il y a une patte à la Guston derrière, mais bon.
Bah, vous nous donnez envie de voir et de découvrir David Wall. Alors, c'est écrit W-O-2-L-E.
Wall, autre, comme Wagram. Ou... Comment?
Comme Wagram.
Wall.
Wall.
David Wall.
Wall, Wall. Un Expon Poupéinski. Yeah. C'est le vrai titre de l'émission. De l'exposition. On va changer de titre. C'est Cesson et Bentière jusqu'au 29 juillet. Et puis maintenant, direction Angoulême, à la cathédrale. On parlait de cathédrale.
Oui.
Quel sens de l'enchaînement, Yasmine aussi.
Oui, oui.
Votre ami Jean-Michel Autoniel.
Mon ami Jean-Michel Autoniel, oui, comme vous dites.
Met en scène le trésor de la cathédrale d'Angoulême.
Il le met pas seulement en scène, il a refait complètement le trésor de la cathédrale d'Angoulême. Moi, j'ai toujours. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit tour de France cet été de Jean-Michel, en suivant les traces de Jean-Michel Autoniel, puisque il a deux expositions. Il a une exposition au Cache dans vos terres, là, au Carré Sainte-Anne de Montpellier, qui est magnifique, vraiment magnifique. Et ce qu'il a, la manière dont il a travaillé sur le lieu éblouissante, et puis une exposition au Crac de Sète avec ses œuvres les plus récentes. Mais bon, moi,
c'est
aussi sur vos terres,
bien
d'accord.
Sûr, sont très
donc vous irez et vous verrez la grande vague de Jean-Michel Autoniel.
Très bien.
Dont on fête le 150e anniversaire cette année.
De Jean-Michel Autoniel.
La grande vague. Moi, j'ai toujours été impressionnée par la manière de Jean-Michel Autoniel d'investir les lieux. Et là, vous le verrez encore ce qu'il a fait au Carré Sainte-Anne. C'est pas quelqu'un qui arrive en conquérant, mais qui cherche à entrer en résonance avec l'espace en entamant un vrai dialogue avec les artistes qui l'y ont précédé. En l'occurrence, je crois que j'ai perdu Corinne. En l'occurrence, Paul Abadie, qui a restauré la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, qui l'avait remodelée complètement à l'époque et qui voulait en faire revenir les ouailles, puisqu'il y avait c'était vraiment un fief ouvrier, parce qu'il y avait beaucoup d'usines, et il faisait ça en ramenant l'électricité, en ramenant toute la verroterie. Là, Jean-Michel Autoniel a refait, on trouve les motifs similaires des vitraux, en fait, que faisait Abadie dans les vitraux d'Autoniel. Il y a un jeu sur le verre, mais il y a aussi le choix. Ce qui compte, c'est non seulement ce que Jean-Michel Autoniel a fait par rapport aux vitraux, par rapport au socle, par rapport aux châsses des reliques, mais c'est le choix des pièces qu'il a choisi de montrer, qu'il s'agisse de vestiges archéologiques qui répondent comme ça tout le temps et à Abadie et à la cathédrale, et un crucifix par exemple qui renvoie à celui de la façade, une vierge du XVIIe siècle aussi, qu'on retrouve là, la salle de l'engagement, c'est toute l'histoire de l'Église dans cette région-là, avec des choses aussi petites qu'un ciboire, mais vraiment réalisées de manière très rustique, parce que après la Révolution, c'était interdit. Donc là, ou bien la petite valise qui servait aux aumôniers ou aux prêtres pendant la guerre, voilà, avec dans les socles des boules noires qui rappellent systématiquement les chapelets. La saille de l'émerveillement, elle est extraordinaire. Voilà, alors moi je suis désolée, c'est pas des sculptures en chamallow, donc comme celle de Corinne, mais j'ai trouvé ça.
Bon. J'ai trouvé ça très très beau.
Il faut aller à la cathédrale d'Angoulême pour voir ce travail de Jean-Michel Autoniel.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, en nous rendant au jeu de paume pour une découverte en ce qui me concerne, avec l'exposition consacrée à Ed van der Elsken, commissariat assuré par Ripsimé Visser. Un peu Chet Baker, mais parce qu'il reste peu de temps pour cette émission ce soir, et Chet Baker, on le retrouve dans les images d'Ed van der Elsken. Donc le communiqué de presse du Jeu de Paume nous dit que le photographe néerlandais, né en 1925, mort en 1990, se considérait comme un chasseur et qu'il rêvait de se faire greffer une caméra dans la tête pour pouvoir saisir la réalité en permanence. Première rétrospective en France pour ce photographe. On peut découvrir 40 ans de pratique environ, au cours desquels il a produit photos, bien sûr, mais aussi livres, très importants, films, diaporamas, différentes formes d'expression qu'on retrouve dans l'exposition. Plus de 150 tirages originaux, des tirages en couleur plus tardifs, des extraits de films, des diaporamas, des montages, des maquettes de livres, des planches contact, des publications. Beaucoup de choses dans cette exposition. Corinne Rondeau, pour commencer.
Je les commande toutes. Je les commence toutes aujourd'hui.
Ah bon, c'est vrai?
Non, c'est
vrai. Ah, c'est vrai.
Mais j'ai un sens de l'équité immense.
Je sais bien, mais c'est... Non, mais j'ai un problème de décalage horaire. Oui, écoutez, cette exposition est assez formidable. J'ai trouvé sur l'accrochage, notamment. D'abord, je connaissais très peu ce photographe. Et j'ai trouvé que l'accrochage avait une manière d'être très vitalisante. Revitalisante même. J'avais l'impression que je passais du chaud au froid et puis je sortais d'un bain. J'étais toute tiède, bien en forme et à poil, puisque c'est aussi un peu l'exposition, parce qu'il y a différentes époques. Donc, on connaît peut-être les amants de Saint-Germain,
soit
les amours
à Saint-Germain-des-Prés. Un amour à Saint-Germain-des-Prés.
Et qui donne vraiment une vision, je dirais, très belle. Jamais vu ça, en fait, dans le rapport de la saisie de la photographie. Parce qu'il y a une insouciance de ces individus. C'est pas du documentaire, c'est pas de la fiction. Alors, ça fait un roman photo, bien sûr, cette série de photographies. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une étrangeté dans la prise de vue et dans la distance à ces personnages qui donnait vraiment... D'abord, les photos sont d'une magnifique... Je dirais, il y a un noir épais.
Il était tiré.
Il y a une clarté. Oui, travaillé pour... Il a tiré Capa et Cartier-Bresson pour Magnum. Jamais il a été influencé. Le type est d'une droiture par rapport à sa propre singularité. C'est ça qui est très étonnant. Et je dois dire qu'au fur et à mesure que je passais les salles les unes aux autres, j'avais l'impression d'avoir la tête qui tournait, plus savoir où j'étais, puisqu'on n'est pas forcément dans une chronologie, parce que vous avez parlé...
Il y a des thématiques plutôt géographiques, là.
C'est ça, et c'est de la géographie autant que des médiums, du cinéma, la vidéo, enfin... Et je trouve que j'avais l'impression peut-être d'être dans une vague histoire de Family of Man, vous savez, de...
Il y a participé, Edouard,
puisque c'est Station qui lui a dit « Vas-y, il faut continuer, etc. » Donc, on voit bien que là, la mise à l'étrier, elle est peut-être aussi remise en jeu par l'exposition, parce que je trouve qu'il y a une dimension très circulante de cette exposition, qui est moins plan-plan que d'habitude, où c'est trop chronologique, et lui s'y prête particulièrement dans une exposition rétrospective d'un artiste décédé, et j'ai trouvé que c'était très, très, très stimulant, et puis c'est surtout de voir, moi je n'ai jamais vu un artiste dont on voit la vie. C'est ça qu'on voit. On voit pas qui il est en soi, mais la vie, c'est-à-dire la manière dont il passe des étapes, cette manière qu'il a de toujours quitter pour aller ailleurs, faire le tour du monde au milieu des années 50 avec sa femme. Il ramène des photos de partout, du continent africain, d'Asie, des États-Unis, du Mexique. Et c'est cette manière d'être toujours face à son sujet, mais au milieu d'eux. Ouais. Et ça, on le sent avec une force.
Au milieu, mais en même temps très discret. On le voit pas, mais il est au cœur du...
Oui, mais discret, mais en même temps, c'est toujours le retour, il y a un retour à la vitalité de ce type. Et je dois dire que comme il y a beaucoup de vidéos, de films, pardon, et sa vidéo, la dernière, c'est Bye, il sait qu'il a atteint un cancer, il va mourir. Et il fait une vidéo de son départ. Et avec une simplicité, une force, je trouve que le personnage est d'une singularité assez inouïe. Et puis après, je pense qu'il faut vraiment revenir à cette exposition, parce que moi, vraiment, j'avais la tête qui tournait. Je savais plus où j'étais, mais j'étais dans une sorte de manège de vivant, très fortement marqué par cette exposition. Et on a tout. Et je crois que ce qui m'a marqué le plus, je sais pas si vous avez vu cette exposition de deux jumelles, les jumelles sur le pont.
Ah, oui.
Incroyable. Et je crois qu'en fait, cet homme était toujours à la recherche de ne pas s'attarder dans un groupe pour passer aux autres et de ne pas ressembler ni à l'un ni à l'autre, mais être soi.
Il y a deux fois deux jumelles, très près dans l'exposition.
Et même les duos sont très répandus ou récurrents. Mais I love you, qui s'écrit avec œil, E-Y-E. Et c'était l'idée de travailler sur la différence. Et puis à la fin, il dit, j'en ai marre de cette idée de homme et femme. Je veux juste parler des gens qui bossent et qui tentent de survivre. Et donc, on voit bien que cette idée d'être au milieu des autres et de vivre au milieu des autres, elle est présente dans l'effet que produit sa photographie. Et d'ailleurs, il dira, montre qui tu es. Et cette expo, elle le montre parfaitement. Lui-même. J'ai trouvé que l'exposition était... Moi, j'ai eu une vraie satisfaction sur l'accrochage. Et puis, évidemment, sur le travail de séquençage, du graphisme et ces planches contact qui sont formidables et qui voient tout le goût du cinéma, puisqu'il a beaucoup travaillé pour la télévision aussi.
Ouais. Edwin Dahlsken.
Yeah.
Yasmine aussi, sur
cette
exposition.
Comme pour vous, ça a été une découverte. Alors, j'en avais entendu parler parce que son livre « Un amour à Saint-Germain-des-Prés » est un livre vraiment mythique auprès de
l'amour
des...
sur la rive gauche, si on traduit l'original. Ouais. « Love on the left bank ».
Oui, oui, c'est vraiment un livre très, très, très important de l'histoire.
Bah,
bien sûr, mais de l'histoire de la photographie. Tout à l'heure, vous disiez que ça vous renvoie à Family Hoffman. Family Hoffman, c'était beaucoup des humanistes. Et la force de Ed van der Elsken, alors les humanistes après-guerre, c'était Doisneau, Ronis, toute cette génération-là, qui avait une vraie volonté...
Pour moi, c'est l'accrochage. Ouais,
une vraie volonté de montrer que après la guerre, on pouvait encore avoir espoir en l'humanité, que les hommes étaient frères. Tout ça. Ed van der Elsken, c'est un photographe qui est beaucoup plus inclassable, qui est totalement inclassable, parce que sa manière de photographier, il a vraiment plusieurs styles différents qui finalement font sa force. D'abord, c'est pour ce qui est du fond, c'est l'un des premiers à photographier la jeunesse à la marge. À cette époque-là, on photographiait beaucoup parmi la jeunesse, la jeunesse ouvrière ou enfin les classes populaires, tout ça. Lui photographie
du côté
vraiment.
Des punks, toujours, lui. Hein.
Exactement. Et quand la commissaire dit c'est un Anne Goldin avant l'heure, exactement ça. C'est exactement ça. C'est cette jeunesse-là qui photographie. Et à quel que soit le moment, effectivement, pour les punks, et même quand il va au Japon, au Japon, il va photographier la jeunesse à la marge. Par contre, quand il est en Afrique, là, il a ce style beaucoup plus humaniste, comme pour montrer, comme si là, il y avait vraiment une volonté de montrer que les hommes sont tous les mêmes et égaux. Là, on le retrouve beaucoup plus humaniste. C'est aussi, il part d'une réalité pour en faire une fiction, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, toujours tout en gardant une fiction la plus réelle possible. Il y a tout un ensemble avec sa compagne hongroise, où et les enfants de cette compagne-là, où en fait il les met en scène tous, des mises en scène qu'on fera beaucoup plus tard, plutôt dans les années 70, mais qu'on ne fait pas encore à ce moment-là. Il y en a une qui est absolument formidable avec le gamin qui est sur la cheminée en train de lire, je crois que c'est François qui annonce un journal qui annonce le cessez-le-feu en Indochine pendant que brûle le feu et les gamines tout autour. Voilà, et c'est pas, il a un côté humaniste, parfois quand il arrive à Paris. Il est très humaniste, mais en même temps, il a cette férocité d'Hélène Levitt ou de Diane Arbus à ses débuts quand il photographie des vieilles dames en train
à Paris,
après la guerre, qui défendent la cause des animaux. On a l'impression qu'elles sont empaillées elles-mêmes. voilà, mais après, on se retrouve plus dans du Klein. Il va photographier des hommes et des femmes complètement, un homme assis avec un accordéon, complètement pris par une immense publicité. publicité bébé cadom, voilà, avec les réclames, les néons, tout ça. Il y a quelque chose de très subjectif aussi. Il y a quelque chose qui annonce Robert Franck. C'est cet ensemble de styles, moi, qui m'a vraiment.
Non, moi je suis
marquée.
J'entends bien parce que le catalogue peut aussi en parler de ces choses-là, mais je peux pas l'associer à aucun photographe. Je ne peux l'associer à aucun, et il est pas humaniste.
C'est ce que je vous dis. C'est inclassable.
Non, mais parce que par exemple dans un texte du catalogue, il vous dit, il a tout annoncé. Voilà, il était avant tout le monde.
Oui,
sauf qu'en fait, c'est un photographe de son temps. C'est ce type ne vit que des moments où il se passe vraiment des changements.
Sauf que les photographes
à l'intérieur des marginalités et la société ne se juge à sa marge, jamais du dedans. Et ce type est juste tout le temps. Ouais. Donc quand vous vieillissez, vous avez des marges. Et dans tous les pays, il y a des marges. Et d'ailleurs, le rapport entre... Il était très friand aussi des cultures et des signes des cultures. Il y a les Japonais qui se... Et puis après, on a les sumo, donc il y a le salut japonais. Et puis dans votre dos, vous avez les rockers, les yakuza bien en gangster américain. Il est d'une drôlerie, d'une...
Il a beaucoup d'humour.
Il est incisif.
De manière sauf qu'il est le seul à ce moment-là à faire ces choses-là.
Oui, mais bien sûr, mais qu'il soit le seul à le faire, c'est une chose. Mais il peut y avoir aussi un photographe qui, à un moment donné, sait que c'est à la marge que les choses se font. Et la grande force de ce type, c'est la marge. Parce qu'il est dedans, il en fait quelque chose. Donc en fait, il n'a pas des styles, il a son non-style qui est d'être à la marge. Et quand vous êtes à la marge, vous n'avez pas de style, vous avez juste le style des gens qui sont à la marge. Et donc ça envoie le bois. Moi,
ça envoie le bois, on n'a pas assez parlé des livres. Il y a notamment.
Ah oui, il y a des livres.
Il voit aussi beaucoup comment il travaille.
On voit la maquette du livre extraordinaire
comment
Jazz
recadre,
où il
les
photographie
photos.
Tous les plus grands jazzmen de son
photos,
temps.
Et ces photos
extraordinaires.
De couples qui font l'amour, de couples qui s'embrassent, qui sont superbes aussi.
Bon,
vraiment
il faut
superbes.
En reparler à la rentrée. Cette exposition, elle dure jusqu'au 24 septembre. Ed van Erlsken, La vie folle. C'est pas mal comme titre finalement. Au Jeu de Paume, à Paris, jusqu'au 24 septembre. Bon, pas mal de textes évidemment différents à lire de plus ou moins loin dans le catalogue d'exposition coédité par le Jeu de Paume et les éditions Xavier. Il y a un texte de Nan Goldin qui dit tout le tribut qu'elle doit à Ed van Erlsken. Il y a des textes de Valérie Jouve et autres pour parler de cette formidable exposition. Et on termine avec le jeu de la dispute. Justine Dibling nous a rejoint pour d'abord nous rafraîchir la mémoire concernant la question d'hier au soir et nous donner la réponse, Justine.
Donc la question était le roman Les Cavaliers de Joseph Kessel se passe en Afghanistan. Une grande place est accordée aux chevaux et plus particulièrement à un sport national pratiqué avec ces derniers. Quel est le nom de ce jeu équestre? Et la réponse était le bouskashi.
Le
bouskashi.
Très bien. On fait gagner ce soir des places de cinéma pour Nothing Wood, le film de Sonia Kronlund qui est sorti aujourd'hui dans les salles. La question?
Donc le documentaire Nothing Wood se passe également en Afghanistan. Quelles sont les deux langues officielles de ce pays?
Très bonne question. Votre réponse, avec vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site franceculture.fr, la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter l'émission, on peut aussi s'abonner au podcast de l'émission, on peut nous écrire éventuellement. On se donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Anna Sigalevitch et Marie-Aude Roux. Nous parlerons de la Cenerentola Rossini, direction Ottavio Dantone et mise en scène Guillaume Gallienne à l'Opéra de Paris. Le timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, direction François-Xavier Roth et mise en scène Guillaume Vincent, c'est à l'Opéra Comique. Et nous parlerons du CD à la russe du jeune pianiste Alexander Kantorov. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.